bonjour, ravi de vous retrouver, comme chaque dimanche, en compagnie de mon compère et ami Jean-Pierre Fleury, une réalisation signée par Stéphane Casalong et Théo. Oui, ça commence bien, vous avez raison.
Et on va.
Non, du tout. Jamais de la vie. Non. Ah oui. Et pourquoi Jean-Pierre m'interpelle comme ça? Parce que nous allons parler du sang de la terre. Voilà, on va parler de la terre et des hommes, mais du sang de la terre qui n'est autre que le vin.
Le vin. Naturellement vôtre. Le dimanche de 12h à 13h sur RCFM.
Tu viens boire du vin. Bonjour Jean-Pierre.
Comment ça va?
Bien. En plus, bon. Parler d'une chose extraordinaire dans notre territoire et l'un des ambassadeurs au niveau national et international, puisque les produits qu'il y a ici, on les trouve sur toutes les tables. On va parler effectivement de ce nectar à consommer avec modération, on le rappelle, mais il y a toute une histoire, bien évidemment, autour de ce vin qui serait apparu, mais vous allez me contredire, je suis sûr, il y a 8000 ans, paraît-il.
Bah tiens.
Au Proche-Orient.
Oui, alors c'est. Je vais d'ailleurs vous dire comment on dit vin en arménien, gwini.
Gwini, d'accord.
En géorgien, gwin. Oui. D'ailleurs, ça c'est marrant parce qu'en breton aussi on dit gwen.
Ah bon?
Oui. Et ça a donné, et ça c'est un verbe, on en a fait un verbe, baragouiné. Ah. Baragouiné, c'est un breton qui est capable, bara c'est le pain, gwin, c'est le vin, donc oui. Baragouiné, qui est capable de faire les deux choses absolument essentielles pour pouvoir survivre, demander du pain et du vin. Ça date du temps où il y a eu cette immense boucherie, en même temps mélange de cultures, la guerre 14-18, où les types ne parlaient que le breton, sont allés sur le front, avaient faim et soif, et ils demandaient bara et gouine, et on a fini par dire arrête de baragouiner.
Voilà, mais moi ce que j'adore, c'est le pain, le vin et les oursins.
Voilà, oui, qui est un beau livre d'ailleurs.
Tout à fait, et qui a été écrit par Nicolas Strombone, qui a été élu meilleur caviste de France en 2011, et qui est toujours en vente dans les bonnes librairies. Voilà.
Alors, un petit peu d'histoire, justement.
Allons-y.
On a retrouvé pourquoi je suis, je pourrais dire Ayo, parce que Ayo, ça veut dire aussi le oui en arménien. Et ça veut dire allons-y, on le sait encore.
Encore, donc, tout à fait.
Superbe d'ailleurs d'avoir une petite parenthèse, qu'il y a une association corso-arménienne qui s'appelle Ayo. Il n'y a plus qu'à la faire, le nom est trouvé.
Voilà.
Première région, on l'a dit, autour du Caucase, la Géorgie, l'Arménie, qui était, bien sûr, il n'y avait pas de frontières à ce moment-là, ça remonte au 6e millénaire, donc ça date pas d'hier, ça fait 2000 ans, comme vous l'avez fort justement dit. On a retrouvé des restes dans une jarde, il y avait des morceaux de grains qui étaient desséchés, enfin manifestement, il y avait eu du vin dedans, puisqu'on a pu analyser un tas de trucs après. À la frontière entre l'Arménie et la Géorgie actuelle, on a retrouvé là aussi, alors des choses beaucoup plus élaborées, puisqu'il y avait, on a retrouvé un fouloir, on a retrouvé tout un site pour faire il y avait des cuves de fermentation. Ce qui est assez étonnant, c'est que juste à côté, il y a un cimetière. Alors, est-ce que les gens étaient ivres et morts, ou est-ce que c'était aussi, ça faisait partie simplement de tellement de la vie que le cimetière et le fouloir étaient juste à côté? Vous savez que je peux parler de l'Arménie, puisque la moitié de mon sang est arménien, donc la moitié de mon vin est arménien.
Aussi.
C'est un peu la même chose. Et je sais que les Arméniens, lorsqu'il y a un enterrement, sont bien sûr absolument tristes, mais aussi manifestent ça en buvant du vin. Donc ça fait partie depuis fort longtemps, j'allais dire du culte des morts, enfin, en tout cas, il n'y a pas de...
Voilà. Mais alors, juste une question, Jean-Pierre. On parle de ce vin qui aurait traversé les grandes civilisations, puisqu'on parle de la Mésopotamie, de l'Égypte, la Grèce, les civilisations étrusques, romaines, telles, vous avez parlé de l'Arménie. Donc c'est vraiment, c'est un véhicule, quoi, le vin.
Ah bah oui, c'est un véhicule à tout point de vue, c'est-à-dire que ça peut même être un véhicule diplomatique, parce que je pense qu'au bout de quelques verres, peut-être pas longtemps après, mais au moins pendant une période extraordinaire, les hommes sont sincères autour d'une bouteille. Donc ça pourrait être un élément, effectivement, pour éviter pas mal de choses. Les combats et autres, on devrait y avoir des vins à l'ONU.
À l'ONU.
Bon, rapidement, alors il y en a, on retrouve des traces. Un péripatéticien, vous savez ce que c'est, hein?
C'est un prostitué en masculin.
Oui, ça m'étonne pas. Non, une péripatéticienne était une dame qui faisait ce métier-là en marchant. C'est ça que ça veut dire. Donc les philosophes aussi, il y avait des philosophes péripatéticiens.
D'accord.
Qui philosophaient en marchant. Voilà.
D'accord.
Et Théophraste en était un. Et il a écrit le traité de l'ivresse.
Oh, hein, c'est joli.
Ça, il y a fort longtemps. D'ailleurs, ça, c'est marrant, lui, il dit que ce serait un berger qui s'appelle Staphylos. Ça, c'est bizarre, comment inventer le vin.
Oui.
Bon, voilà. Bon, les Grecs, l'Odyssée, on retrouve les effets du vin, puisque Ulysse a saoulé le cyclope. Ça lui a permis de partir. Alors, je me permets de me poser la question, est-ce que le cyclope voyait double?
Je disais, cet homme bon, est fou.
Il fallait bien qu'il vienne.
Il fallait le placer.
Voilà. Alors, ils ajoutaient apparemment des vignes avant la fermentation. Des vignes, des figues.
Des figues.
Quand ils en trouvaient avant la fermentation. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà inventé la chaptalisation.
Oh, bon,
on reviendra là-dessus. Les Égyptiens, il y a du vin rouge, puisqu'on a retrouvé de la malvidine, c'est-à-dire quelque chose qui est propre au vin rouge dans les, vous savez, les taches de vin, elles sont indélébiles. Ah, oui, eh bien, elles le sont aussi depuis là, sur les papyrus, qui est, donc, on sait qu'ils savaient faire du vin rouge. La Gaule, 3000 ans avant Jésus-Christ, dans le sillon rhodanien, bien avant qu'il y ait des papes à Châteauneuf, il y avait du vin. Voilà. D'ailleurs, il y avait un fort commerce puisqu'on a retrouvé un tas d'amphores et autres qui servaient à les vendre, les vins du sillon rhodanien vers la Grèce.
Alors, dites-moi, il se dit que l'invention du vin, si on peut parler de l'invention du vin, serait sans doute due au hasard. Pareil qu'il aurait été produit à partir donc d'un fruit de la Vitis vinifera, dont le jus est fermenté naturellement. Et voilà, et donc au néolithique, il y en a un qui a fait du vin. Et puis voilà.
Et oui, mais puisqu'on va s'amuser un petit peu après, si on a le temps. Mais les animaux ont découvert le vin aussi. Ou en tout cas, les vertus de certaines choses qui fermentent, comme ça. On a les amphores, après, on prête l'invention aussi aux Gaulois d'avoir inventé le tonneau.
Hein, oui.
C'est-à-dire que c'est assez marrant. Les vins qui sont en tonneaux, ça s'appelle encore marsan comme ça. D'ailleurs, on dit des vins cerclés.
Les vins cerclés, tout à fait.
Hein, j'aime bien. Il y a plein de vieux mots comme ça. Alors, on repart de la plante qui est la plante première. On va donner quand même la définition du vin. Tiens, c'est une boisson alcoolisée obtenue à partir de la fermentation du jus de raisin.
Ah, c'est exactement ça.
Bon, après il y a des vins de palme, il y a des vins de coco et tout ça, mais on n'ira pas. Le vin de coco étant bien sûr un vin rouge. Bon. Je l'ai dit, fallait que je m'en débarrasse.
Oui.
Bon, d'accord. On reparle le pampre. Voilà un beau mot d'ailleurs.
Hein,
le pampre, oui. Vous savez, le jus du pampre. Le pampre, c'est une montre bien que cette plante au départ, que vous avez fort bien citée, hein, qui est une vigne sauvage. Est une plante grimpante. Le pampre, il y a dessus, il y a les feuilles, il y a les grappes de raisin, il y a les vrilles qui permettent
et qui s'accrochent un peu partout,
qui s'accrochent et qui permettent donc à cette plante de monter jusqu'à quand elle est sauvage. D'abord, elle s'étale sur le sol, un peu comme du lierre, et ensuite elle peut monter très très haut avec une longueur de 40 ou 50 mètres. Si elle va trouver un arbre en rampant, elle va grimper dessus, elle va s'en servir comme d'un tuteur.
Elle va le coloniser peut-être. Mmh.
Elle va le coloniser et puis il va y avoir un tas d'animaux qui vont arriver dessus après c'est tout bon, hein, il y a plus qu'à se pencher pour manger les grappes.
Oui, hein.
Alors on part au départ de Vitis vinifera, hein, on en a parlé.
Oui, tout à fait.
On greffe donc sur les porte-greffes. Qu'on va greffer sur les porte-greffes, hein, ça peut être. Alors il y a d'autres vitis qui sont d'autres espèces de vignes sauvages, hein, au départ, en tout cas maintenant sélectionnées, et on obtient des cultivars différents et variés, et ça c'est ce qu'on va appeler les cépages.
D'accord.
S'il y a pas de greffe, et c'est assez marrant, le vin est foxé. Alors c'est
anglais.
C'est en anglais, mais
Fox,
c'est en français aussi.
Fox, c'est le renard.
C'est le renard. Mais quand il n'a pas été greffé, le vin qu'on peut obtenir, il est foxé parce qu'on a l'impression que ça sent le pipi du renard.
Ah bon?
Et ben voilà.
Ben ça, je me suis jamais rendu compte de ça. Tiens.
Ah ben parce que vous n'avez bu que des vins issus de cépages greffés.
Cépages greffés.
Bien sûr. Hein. Le Lambrusco.
Oui.
Hein, un des noms.
C'est des vins italiens, ça.
Lambrusco. Oui, mais un des noms de la vigne sauvage, encore maintenant, le nom de la vigne sauvage dans un dictionnaire français, c'est le Lambrusque.
D'accord.
Hein, il est brusque, il est brutal et brusque, hein, pour reprendre, parce que ça doit un petit peu être foxé, justement. Hein, ça sent pas tellement bon. Alors, on fait des cépages hybrides aussi, on va pas forcément revenir là-dessus. Il y a déjà suffisamment de cépages les définir. Le cépage, c'est une des émanations les plus évidentes d'un produit du terroir. Hein, puisqu'en partant effectivement du même porte-greffe, etc., on arrive à faire des choses complètement différentes et adaptées à l'endroit. Hein. Donc, il y a des s'adapter à tout. Soit le sol est acide, soit il est calcaire, soit il fait sec, soit il fait froid, soit il va geler, soit il va pas geler, etc., etc. En France, il y a environ, alors, il y a 2000 ou 3000 noms de cépages. Il y a même un dictionnaire qui est fait par un monsieur qui s'appelle Lachivet, qui a été fait là-dessus, qui était linguiste à la Sorbonne. Il a fait un travail extraordinaire. Et lui, d'ailleurs, disait qu'il y a autant de cépages qu'il y a de vignes. Hein. Et il y a autant de cépages qu'il y a de vignes et qu'il y a d'années. Parce qu'à chaque fois, c'est différent. Hein, donc, c'est assez difficile de s'y retrouver. Bon, en gros, il y a 200 cépages actuellement, vraiment, qui servent sur les...
Ouais, ils sont reconnus,
ouais. Il y a environ, sur les 90 000 exploitations qu'il y a en France. Hein, c'est quand même beaucoup. On s'en occupe du vin en France. Ça fait environ 800 000 hectares. Donc, c'est pas mal non plus. Il y a de quoi faire. Les cépages rouges les plus courants, c'est pas du tout, là, c'est pas un ordre de préférence ou quoi que ce soit. Le Merlot, le Grenache noir, le Cabernet Sauvignon, le Pinot Noir, le Carignan, le Gamay, le Poulsard, le Trousseau, la Négrette, le Malbec, le Tana, etc.
Mais il y en a quelques-uns en Corse aussi.
Oui, il y en a plein, alors on va arriver dessus. Et puis dans les blancs, ça c'était des rouges, les blancs, il y a l'Unier blanc, le Chardonnay, le Sauvignon, le Savagnin, le Pupillin, des choses comme ça. Ne pas confondre cépage et cru.
Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir, sinon que ça peut être un Bourgueil, c'est un Cabernet qui a poussé en Anjou, comme le Chinon. Mais ça va pas donner le même vin qu'un Cabernet Sauvignon, par exemple, qui aura poussé dans le Bordelais. Même chose pour les blancs. Un Chardonnay blanc, ça peut donner du Chablis, hein, et puis ça va donner un Champagne.
Donc, ça dépend des terroirs.
Ça dépend des terroirs, exactement. Sauf en Alsace, où il y a une confusion, c'est le cépage qui l'emporte sur l'étiquette. On dit un Gewürztraminer, un Sylvaner,
oui.
Un Riesling, il n'y a pas forcément, en gros, l'indication géographique.
Ben, cela dit, on dit aussi un Bourgogne ou un Bordeaux.
Oui, alors c'est les gens qui disent ça, c'est qu'ils ne savent pas parler.
Oui.
Hein, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui m'a énervé dans les avions d'Air France, quand on était bien placé. Au départ, il y avait des vins qui étaient des vins français, donc qui devaient être donnés par leur cru, château, machin, etc. Et après, pour faire très amerlogue, si j'ose dire, eh ben, c'était plus les crus, c'était les cépages.
Mais oui, bien sûr.
On vous servait à Sauvignon.
C'est nul.
Vous pouvez le garder.
Ouais. Alors, voilà. Les cépages, vous voulez que j'en parle un peu des cépages corses?
Bah tiens.
Hein. Alors, il y en a qui n'ont pas disparu, mais qui existent presque plus. Il y a le pagadeb, il dit, ça veut dire payer tes dettes. C'est un cépage blanc.
C'est en politique, c'est pour faire des pots
aussi,
de vin.
Aussi, hein, ouais.
C'est pour faire des pots de vin.
Ouais, peut-être. Ouais. On aurait pu l'appeler le pagadeb, peut-être. Non, je plaisante. Ouais. Pagadeb, il dit, c'est un cépage blanc, ce qui est sans doute le plus vieux de Corse. En plus, il y a le Malvoisie, ça c'est du gros grain. Il y a le Nielucci, qui est un cépage rouge.
Patrimonio.
Qui ressemble au Sangiovese de Toscane. C'est un cépage qui est plutôt patrimonio, non, oui. Il couvre d'ailleurs 35% de l'ensemble des vignobles de chez nous.
Ah, oui.
Ensuite, on a le Chacarello, qui est un cépage qui se trouve surtout dans le sud et couvre à peu près 15% des vignobles. Il donne des vins qui sont assez fins et poivrés. Il y a le Vermentino, qui est un cépage à vin blanc. C'est en fait une variété de Malvoisie, hein, qui produit des vins très aromatiques. Il y a le Carcagnolo blanc, qui est un cépage blanc. Le Carcagnolo noir, qui est un cépage noir. Il y a le Bianco Gentile, qui est un cépage blanc. Et puis, il y a l'Aleatico. Alors, l'Aleatico, il avait une particularité. On le fait dans le Cap Corse patrimoine.
C'est Muscat, non ?
Alors, non, c'est autre chose. C'était pour l'élaboration du Rapo, qui est un vin doux qui est muté à l'eau de vie. Et ce cépage-là, d'Aleatico, on le trouvait dans le vin des papes. Voilà, donc c'était des vins de coupage. Voilà, ça c'est les cépages. C'est sur à peu près 5700 hectares, dont à peu près plus de 3000 qui sont en AOC. Voilà.
Alors j'avais lu un truc sur le Nielucci.
Ouais.
C'est très difficile de parler d'un vin, et là ils en parlent avec beaucoup de sincérité, mais il faut quand même savoir lire. C'est-à-dire qu'ils rappellent la fourrure de lièvre et la réglisse. Les arômes de fruits rouges, violettes, avec une note boisée et en vieillissant, dégagent des arômes d'épices et des fleurs de maquis.
Pourquoi pas?
Alors là, on arrive, je vous narrer une petite anecdote, il y a fort longtemps, en compagnie de Pierre-André Bouton, qui était mon patron à l'époque, qui est quelqu'un qui venait très souvent en Corse d'ailleurs. On était chez un grand marchand de vin qui s'appelle Le Grand, qui est rue de la Banque à Paris. Et là, on était assez souvent là-bas, parce que on avait à y faire, si j'ose dire. Hein, c'était un type vraiment très bien, le Grand, là. Et un jour, il y a un Américain qui vient. Et il commence à demander à Monsieur Le Grand de lui parler de ses vins. Et Monsieur Legrand commence à dire, alors je caricature un petit peu, mais celui-là il a de la jambe, celui-là il a de la cuisse. Celui-là il sent la queue du lièvre. Et Pierre-André, qui était un parfait anglophone, essayait de traduire ça. Comment vous voulez traduire à quelqu'un, un vin a de la jambe et il a de la queue queue du lièvre?
C'est improbable.
Le mec, l'Américain, il a dû croire qu'on avait déjà goûté très largement.
Oui, il y avait de ça peut-être. On va écouter une chanson, c'est Canta Settantadre, qui a écrit une chanson qui s'appelle A Canzone di Vino, la chanson du vin. Et on se retrouve tout de suite après avec Jean-Pierre, dans Ira Naturellement Vôtre, où l'on parle des vins de Corse. Des vins de Corse, d'ailleurs, pardon.
Des vins de Corse.
Quello con lei è mica vino, non possa bere o miniga, quanto sto rigore di vino, a noi ci fa e canta. Quando noi ci mangiamo morso, pane presunto a calà, un pezzo di formaggio corso, ui. Faceva là o uampa o miniga, senza vino si bosta, o chi piace che lo ci face e pelave salute pace ancora il re o li spiace la mano d'onto per di usanto con namacque un genisuno face piace digiuno, ecco perché conta ognuno, o chi piace, o chi piace. A virola di zia Rosa, un siuli ha fatto ca, e la di zia Ghillamore era una calamità. Fatto la faraso con mare, maliziosari d'un mondo, dimmi come tu sta fare, a zite la così cuto. Caraguma, senza amore un si bosta, o chi piace, che lo ci face, e per la ve, salute pace, anche il re, un ispiace. Ma que un c'è nessuno face piace anche digiuno, ecco perché conta ognuno, o chi piace, o chi piace. Fin tanto che non ta sta dara, amore vino ci sarà, perché facci sempre a guerra, perché stirpa vivemo in a tutto errore, forse coraggio ci darà, e poi pensando a far amore, dolce piace Maria sa. Voglio un po', dominica, amore vino e libertà. Voglio un po', dominica, amore vino e libertà.
Naturellement vôtre, le dimanche de 12h à 13h sur RCFM.
Voilà, une chanson, vous l'avez compris, Jean-Pierre, qui n'engendre pas la mélancolie.
Une chanson à boire.
Oui, mais c'est
avec modération, c'est vous qui devez dire ça.
Oui, tout à fait. Amour, vin et liberté. Ça va très bien.
Sans modération.
Voilà, et d'ailleurs, à ce moment de l'émission, j'aimerais citer un ouvrage qui s'appelle Vin de Corse, Adara, l'Omini et Passion, la terre, les hommes et la passion. C'est un livre qui a été écrit par Patrick Fioramonte, qui était un grand maître sommelier de Corse, qui est maintenant vigneron. Et ce livre est vraiment une référence sur le vin en Corse. Voilà, je voulais le citer parce qu'il est encore en vente.
Super. Alors, le vin, on a dit que c'était... Alors, il y a 85% d'eau. Hein, oui. Donc on boit beaucoup d'eau quand on boit du vin.
C'est vrai en plus.
Hein. Hein, c'est presque de l'eau ferrugineuse. Alors, le reste, il y a 15% de reste.
Oui, mais c'est
alors,
celui-là qui...
Alors, et ben, il y a de l'alcool dedans, figurez-vous, dans le reste. Et puis, il y a des acides en tout genre, des tartriques, des maliques, des citriques, des lactiques. Il y a des métaux, il y a du cuivre, ça on le sait. Il y a un peu d'arsenic, pourquoi pas, il y a un peu de mercure. Mais ça, normalement, hein, c'est pas parce que le sol est malade. Il y a des glucoses, des fructoses, des phénols, un tas de choses comme ça. Alors ça, on l'a dit, que le vin s'obtient, on rappelle la définition, vin, c'est une boisson alcoolisée obtenue par la fermentation du jus de raisin. Par les fermentations. Alors, la fermentation, c'est un processus chimique naturel, pendant lequel le jus de raisin va se transformer en alcool sous l'action de sucre contenu dans la pulpe et sous l'action des levures et aussi de bactéries. Alors, il y a deux fermentations. Oui. La fermentation alcoolique, c'est la première. On foule le raisin et on met le moût obtenu dans une cuve et on se foule plus. Hein, puisqu'on attend. Il y a une magie qui s'opère. Hein. La chaleur, au contact des sucres et des levures, ça chauffe encore. Ça va chauffer jusqu'à 35 degrés. Bloc, bloc, bloc. Là, les alcools sont apparus. Tout ça continue à chauffer. Et les levures sont tuées par la chaleur. Et là, la fermentation s'arrête. Mais, hélas, on obtient un goût âpre, peut-être presque foxé, comme on disait tout à l'heure. Dû à la présence d'acides maliques. Le mal est là.
Le mal est là.
Là. Et on provoque une seconde fermentation. J'ai dit que la première, c'était les levures qui sont naturellement dans le raisin. Hein, qu'il faut Alors on peut en rajouter, tout le monde rajoute de tout, etc. Un petit peu partout, que ce soit... Enfin, j'en sais rien, voilà. J'ai l'impression que... disons que j'en ai entendu parler, ou que peut-être certains, etc. Bon, bref. Et on provoque ensuite une seconde fermentation autour de 20 degrés. Et là, on fait appel à des bactéries lactiques qui va détruire le malo. C'est pour ça que c'est malolactique.
Ah, la délai s'appelait.
Et ça fait donc la fermentation. C'est indispensable pour avoir, en tout cas, cette malolactique, pour avoir un vin rouge de qualité.
Et c'est là qu'interviennent, bien sûr, les grands œnologues qui travaillent dans les caves.
Ah ben bien sûr, parce qu'il n'y a pas que de la magie.
Ah ben
en tout cas, il y a le talent des œnologues qui est... Bon, on s'aperçoit qu'il y a plein de mots chimiques là-dedans, hein, parce qu'il y a aussi, je vais pas parler, dans la composition, il y a même de l'H2O, c'est-à-dire de l'H2O, de la H2SO4, c'est-à-dire de l'hydrogène sulfureux, c'est-à-dire quelque chose qui peut puer comme des œufs pourris. Enfin, tout ça, c'est là-dedans, c'est un savant mélange, c'est un miracle. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un miracle. Alors, comment on fait? Est-ce que on prend du raisin rouge pour faire du vin rouge? Et du raisin blanc pour faire du raisin
du vin blanc.
Du vin blanc, pardon, c'est ce que je voulais dire. Je suis un peu. Eh ben, pas du tout. Enfin, en tout cas, presque pas du tout. Parce que presque tous les raisins ont la chair blanche. Hein? Donc le jus est blanc.
Donc,
Bon, pour qu'il y ait du vin rouge, il faut garder dans ce jus la peau des raisins rouges. Et on fait macérer. Donc il n'y a pas de rouge fait avec des vins blancs.
Oui, mais c'est comme les gens qui disent l'histoire de l'huile d'olive, si vous la prenez noire, elle est noire, et si vous la prenez verte, elle est verte. C'est une bêtise, c'est la même,
olive. C'est la même, bien sûr. Mais là c'est la peau qui fait que la chair, la pulpe est pratiquement toujours blanche. Hein. Mm-hmm. Pratiquement, il y a bien sûr, pour m'embêter, des exceptions. Mais on peut encore une fois, il faut que la peau, elle, soit colorée pour que le vin soit coloré. Alors, il n'y a pas que la peau, il y a toujours des éléments de la grappe qui sont restés. Il peut y avoir des tanins qui restent aussi, puisqu'on met un tout petit peu de la branche, si j'ose dire, enfin du cèpe. Et puis de la grappe. Hein, il n'y a pas que. Hein, il peut y avoir des choses comme ça qui vont colorer. Le vin rosé, c'est pas du vin rouge avec de l'eau.
Ah non.
C'est un vin qui serait devenu rouge si on l'avait laissé macérer plus longtemps, etc. Parce qu'il faut pour que le vin soit rouge, il faut qu'il y ait une macération. Le jus plus la pulpe. Tout ça, ça doit macérer.
D'ailleurs, les grands amateurs de vin, les sommeliers du monde entier sont très inquiets parce qu'il y a une consommation exponentielle de vin rosé. à consommer avec modération. Oui. Et ils craignent que les rouges et les blancs soient malmenés à un moment donné, parce qu'il y a un phénomène de mode, c'est très féminin, il y a un phénomène de mode, et donc comme c'est un phénomène économique aussi, il y a des vignerons qui sont quand même aussi tentés, malgré eux,
bien sûr,
de faire plus de rosé qu'ils ne faisaient en définitive avant. Oui, quoi.
Parce qu'on a l'impression que c'est moins fort, vous l'avez dit, c'est peut-être plus féminin, comme le champagne, mais enfin ça fait toujours 13 chevaux. Et c'est,
dites-moi, vous savez où il est le plus vieux vin du monde? J'ai appris ça, je ne savais pas du tout.
Alors il est soit à Chypre, soit en Afrique du Sud.
Eh ben non. Il serait le plus vieux vin du monde, serait dans un fût conservé à Strasbourg, dans les hospices de Strasbourg, élevé en foudre, c'est-à-dire donc en fût de bois. Il daterait de 1472, c'est-à-dire en fût. Après, il est possible qu'on ait trouvé aussi du vin, comme dit, dans ces pays-là, en Afrique du Sud, dans des amphores, choses comme ça. Mais en fût, et ce qui est original, c'est que ce fût a une forme ovoïde. Et quand on va chez les vignerons maintenant, dans les caves, on se rend compte qu'ils vinifient maintenant de plus en plus dans des fûts en forme d'œuf. Peut-être qu'ils reviennent à l'origine,
Oui,
bon,
tout
voilà,
à fait.
Fermez la parenthèse.
Alors, on arrive, au tonneau. Alors, le vin, on l'a dit, c'est un végétal, mais c'est un végétal, bien sûr, qui vient de la vigne, mais il y a aussi énormément d'échanges, en particulier avec le bois du tonneau.
C'est là où le goût, où il prend son goût aussi.
En partie, oui. Alors, où il peut d'ailleurs aussi se gâcher, parce qu'il peut être énormément boisé. Boisé, ça veut dire qu'il a pris le goût du bois. Alors, le goût du bois, pour qu'un tonneau soit étanche, il faut le brûler. Donc, c'est un art extraordinaire de pouvoir brûler les.
Avoir fait.
C'est des gens qui savent faire. Moi, j'ai eu la chance de filmer ça plusieurs fois. Filmer la façon dont on fait un tonneau, c'est une œuvre d'art. Là aussi, c'est un miracle. Et des tonneaux, d'ailleurs, il y en a maintenant, on n'en fait plus que pour le vin. Autrefois, c'était le seul contenant qui existait. Il n'y avait pas de plastique. C'était ça ou de la peau de chèvre, ou de la vessie. Donc on a mis absolument tout dans les tonneaux quand on ne s'est plus servi des amphores qui sont extrêmement lourdes par rapport à ce qu'elles peuvent piquer passe.
Et c'est un vrai métier, quoi, un tonnelier.
Alors pour faire les tonneaux, on part de quoi? On part d'un beau chêne, qui a 180 ans. Qui a poussé tranquillement. C'est presque de la lutherie que de faire, des tonneaux. Les gens ont un marlin, ils cassent donc le bois avec, mais ils le cassent vraiment en douceur. C'est-à-dire qu'ils vont juste l'entamer avec, et ensuite avec les mains, ils vont écarter ce qui va devenir les douelles. Et c'est ensuite à l'oreille qu'ils travaillent pour savoir si ça vient bien. Ils ont travaillé aussi à l'œil, parce que c'est fantastique, les tanins, on les voit apparaître, c'est soit vieux rose, soit vieux vert, c'est juste superbe tout ça. Et c'est le mélange de tout ça qui va dans un tonneau qui va être bien étanche, qui va être fait uniquement, bien sûr, à la partie intérieure, on l'a dit, avec du végétal, sauf un tout petit peu de graisse animale. Parce que je crois que c'est à l'endroit où on va mettre la chantepleur. Alors, excusez-moi, on va la mettre et la fixer grâce à un vide cochon.
C'est quoi la chantepleur?
La chantepleur, c'est la cannelle, la canule.
Ah oui, la canule, d'accord. La
chantepleur, moi je trouve que c'est super.
Ah, c'est joli.
Je croyais que vous alliez me demander ce que c'était qu'un vide cochon.
Mais après,
j'allais dire, vous allez demander à votre grand-père, vide cochon, c'était le vide, c'était le sexe autrefois.
Exact, oui.
Donc, c'est cette partie de la graisse du cochon qui est autour de ça, on s'en servait, elle avait des propriétés spéciales, et donc on s'en sert encore en tonnellerie.
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que les barriques de vin, moi j'étais persuadé qu'elles auraient été inventées, par exemple, je sais pas moi, en Mésopotamie.
Par Diogène.
Oui, par exemple.
Il vivait dedans, lui.
Bon, lui, il vivait dedans, mais on voit que les fabrications de tonneaux, la barrique, par exemple, c'est les Celtes qui les ont inventées, puis ensuite, c'est les Romains qui ont récupéré le truc.
Bon. Oui, alors la barrique, terme exclusivement bourguignon.
Ah, d'accord.
225 litres.
Ah, donc la capacité, la barrique, c'est 225 litres.
Oui,
d'accord.
Ne pas confondre avec dans le Bordelais, où il est question d'un fût. Oui. C'est 228 litres, la feuillette 114 et le carteau 57. À moins que ce soit exactement le contraire, à vérifier.
Oui, non, mais c'est bien parce qu'il y a des termes donc au niveau des tonneaux.
On en est partout. Tiens, les termes, alors il y en a des merveilleux. Peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Peu importe le flocon pourvu qu'on ait l'Everest. Dans le Bordelais, la taille des bouteilles. Alors déjà la forme. Moi, je suis capable de voir dans une cave qui existe depuis, on va dire, maintenant, oui, ça fait un bout de temps quand même. antérieure à 70 environ, si les bouteilles de Bordeaux sont antérieures à 70 ou pas.
Par rapport à leur forme.
Ouais, elles ont changé de forme. Avant, elles avaient les épaules plus larges qu'elles ont le cul.
D'accord.
Et maintenant, elles sont cylindriques.
Mais ça, c'est un phénomène de mode, peut-être aussi.
C'était surtout pour pouvoir en mettre, avoir des casiers plus petits.
D'accord. Mais c'est comme j'ai regardé sur un film il n'y a pas très longtemps sur les tonneliers, puisqu'on parle des tonneliers, les portes des tonneliers étaient en forme de tonneau pour qu'elles puissent sortir. Après, on passait devant des maisons, on savait que là, il y avait un tonnelier.
Bon, maintenant, il y a le plus les tonneaux, alors, étaient, bon, on a dit, il y a des merins qui sont, ou des douelles, hein, qui sont mises côte à côte. Les tonneaux sont aussi cerclés, hein. Donc, cerclés à chaud avec du fer. Et pour ne pas que tout ça s'use sur les pavés des cours, etc., il y avait ce qu'on appelait des feuillards. Les feuillards, c'est des tout petits, des châtaigniers qui font, 3 cm de diamètre, qui sont coupés par le milieu, hein, donc on fait et avec lesquels on faisait un surcerclage pour ne pas user les tonneaux. Et je suis persuadé que ça a été pendant un moment une des richesses de la petite richesse de la Corse qui a dû en vendre l'Auvergne en vend, bien sûr, parce que à ce moment-là tout avait une valeur. Peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, on va retourner dans le bordelais. Vous savez, on a parlé de la forme des bouteilles, mais la taille. Alors là,
il y a tout.
C'est assez marrant d'ailleurs, parce qu'on arrive après pratiquement à la mythologie zoroastrienne, hein, puisque on va avoir affaire à des rois de Sumer ou d'ailleurs. Alors les plus petites, ça c'est assez facile. Le 20 centilitres, la petite bouteille. Alors je ne sais pas, j'ai jamais fréquenté ça, et tant mieux. 20 centilitres, la piccolo. Ou la piccola, oui, peut-être, bon, plutôt.
Ah, piccola, la petite, quoi.
Oui, petite, oui. Mais d'ailleurs, picoler, ça vient aussi peut-être de là.
Ah, peut-être de ça, oui.
Ah, ouais. Mais à mon avis, c'était pas des petites bouteilles pour picoler.
Ou alors, ils picolaient plusieurs petites bouteilles.
Voilà, exactement. 25 centilitres, la chopine.
Ouais, ce qui est aussi une quantité dans un verre aussi, une chopine.
Moi, j'en voyais plus.
Chopine en bois, il y en avait quand même.
Bon, maintenant, on arrive à la fillette, c'est-à-dire 37,5.
Oui.
La bouteille 75.
Oui, c'est la courante, quoi.
Voilà, c'est ça. Autrefois, ça faisait un litre, hein. On peut quand même le dire. Hein, c'est une, et d'ailleurs, maintenant, il y en a plus qui font 74 que 75.
Oui.
Donc, tous les 74 bouteilles, vous en avez gagné une.
Hein. Il faut le
magnum. Le magnum, c'est deux bouteilles. Un litre 5. Bon, le double magnum, ou Marie-Jeanne, 3 litres. Hein. Le Jéroboam, 5 litres.
5 litres.
Ouais. Le Mathusalem ou impérial, 6 litres.
6 litres.
Le Salmanazar, 9 litres. Ouais. Le Balthazar, 12 litres. Le Dabucodonosor, 15 litres. Le Melchior, 18 litres. Et, j'ai trouvé ça chez un ami viticulteur dans le Bordelais, donc c'est forcément vrai, l'Amargo, dans le Bordelais, ça fait 27 litres.
Mais c'est des bouteilles de collection, ça.
Oui, j'en ai vu chez lui. On avait pas mal collectionné, d'ailleurs.
Alors, je voudrais qu'on revienne 30 secondes sur les tonneliers, parce que j'ai vu que la France est le leader mondial de la fabrication de tonneaux. Il y a même une fédération française.
Ça vaut des sous. Hein.
Alors, ils produisent 600 000 tonneaux par an, ce qui n'est pas considérable. Mais pourquoi? Non, mais pourquoi? Ils sont plus tellement nombreux. Il y en a plus beaucoup. Alors, il y en a beaucoup en Aquitaine, en Bourgogne, vous citiez la Bourgogne, notamment la tonnellerie de Mercurey, qui est l'une des plus connues en Bourgogne.
Il y a la forêt de Troncé qui est pas loin.
Voilà, qui est pas loin. Il y a aussi la Charente, où il y a une douzaine de tonnelleries.
Parce que la Charente va chercher traditionnellement des bois du côté du Morvan. Donc ça descend par le fleuve.
Voilà, et la plus connue étant la tonnellerie Séguin-Moreau. Il y a la Loire. Ouais. Avec la tonnellerie du Val-de-Loire, et puis il y a le Rhône, où il n'y a plus que 3 tonneliers. En tout cas, c'est 75% de la fabrication sont exportés dans le monde entier.
Bah. Celle du Val-de-Loire, je la connais, elle est en pleine Sologne, et il y a des très beaux chênes en Sologne qui sont faits pour ça, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, il y avait aussi une histoire, c'est que la région d'Orléans a récupéré beaucoup de tonneaux, parce que des vins qui venaient de Bourgogne par le fleuve arrivaient à Orléans, et on commençait à regarder comment s'ils avaient pas trop tourné, et ceux qui commençaient à mal virer, si j'ose dire, on en faisait du vinaigre à Orléans. C'est pour ça que c'est le vinaigre d'Orléans est réputé.
Et puis je disais que on parlait des tonneliers français. Alors il y a des fabricants de tonneaux ailleurs. Hein. Il y en a en Suisse, il y en a en Portugal, en Espagne, en Italie, en Irlande. Et il y en a aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils font. Ils mettent du vin à l'intérieur. Ils laissent vieillir et après ils font leur whisky dedans.
Alors, ils font ça, certes, ils n'ont pas inventé l'eau chaude, si j'ose dire, puisque les grands whisky écossais sont normalement vieillis dans des tonneaux qui ont servi déjà à faire vieillir du Xérès. Donc ça permet, encore une fois, un échange, ce qui donne peut-être un petit peu de rondeur à ces grands whisky.
Oui, c'est impossible.
On n'a pas parlé des feuilles de vigne, tiens.
Ouais.
Pour faire les dolmas, pourquoi pas. Hein, c'est bon.
Parce que c'est délicieux, les feuilles de vigne farcies.
Et puis, ça servait aussi, paraît-il, à cacher la nudité.
Ouais, il y en a qui mettaient des palmiers. Il y en a qui mettaient les feuilles de palmier, hein, certainement.
C'est peut-être parce qu'ils avaient des cépages à petites feuilles.
Oui, c'est vrai aussi, ouais. Une petite grappe, quoi.
Une petite grappe, c'est ça. Bon, bref. Le bouchon, alors, ça vient quand même complètement, c'est aussi complètement végétal, parce qu'il n'est pas question d'avoir un
liège,
bouchon qui ne soit pas en liège. Ouais. C'est pour éviter que le liquide ne s'écoule ou s'évapore. Quelqu'un écrit, c'est un poumon et un filtre. Alors, ça vient des chênes lièges, de la suberée. On a le démasclage sur un chêne. Donc, c'était la première partie. On dit que le chêne, à ce moment-là, est mâle. Mais il ne va pas changer de sexe. C'est un chêne jeune qui fait moins de 70 cm de diamètre.
Où il y a plein de fourmis.
Oui, et après, c'est simplement quand il a atteint l'âge de 25 ans et un certain beau diamètre qu'on récolte pour la première fois l'écorce qu'on appelle sur le chêne qu'on appelle femelle à ce moment-là, des écorces qui font 3 cm et qu'on récolte théoriquement simplement tous les 15 ans.
Alors ce qui est dommage, Jean-Pierre, et puis on le voit lorsque on rencontre les vignerons, quoique la plupart maintenant essayent de revenir à des bouchons en liège, c'est 80% des bouchons étaient en liège, mais c'est vrai que là maintenant, on a vu des bouchons à vis, des bouchons synthétiques. Il n'y a que les bouchons de champagne et de bière qui sont vraiment restés en tradition. En Corse, on note quand même qu'on revient beaucoup au bouchon en liège, qui est une belle chose. Ça coûte peut-être un peu plus cher, moi, que j'en sais rien. Je sais pas.
À mon avis, ça doit pouvoir se recycler. En plus, on ne va pas tout à fait de la même façon, mais il y a peut-être moyen de le faire. Vous avez évoqué le champagne. Bon, c'est bien quelque chose de spécial.
C'est du vin.
C'est du vin avec du gaz carbonique, du CO2. Donc, fabriquer du champagne, il y aura beaucoup moins de CO2 dans l'air et ce sera très très bien. C'est bon pour la planète.
En plus. Et on parle de vin de champagne, d'ailleurs.
Bien sûr. Est-ce que vous préférez les vins tranquilles ou pas?
Je ne sais pas ce que c'est qu'un vin tranquille.
C'est un vin qui n'est pas effervescent.
Ah oui.
Donc, le champagne n'est pas un vin tranquille.
Oui, mais moi je préfère les vins tranquilles.
Voilà, moi aussi d'ailleurs.
Mais cela dit, j'ai rien contre les vins qui ne le sont pas, mais en tout cas les personnes qui le servent. Alors, je notais sur les vins que les bouchons de vin sont tous marqués, c'est-à-dire en fonction de la région où on est, des cépages ou tout ça, ils sont tous marqués. On peut pas se tromper, quoi.
Ah oui, il y a déjà une littérature sur le bouchon, donne d'ailleurs quelque chose de très très important. On n'a pas évoqué le millésime, puisqu'on a parlé effectivement des crus, mais les crus sont accompagnés de millésimes. Un vin qui n'est pas millésimé, c'est qu'on a jugé qu'il n'en valait pas la peine.
C'est qu'on l'a fait vieillir et c'est en fonction des années.
Oui, tout à fait. Alors, on a parlé de l'échange avec le bois. On peut parler aussi de choses qui se font ou qui se font pas. Je n'en sais rien, mais je l'ai vu quand même. Les copeaux. C'est-à-dire que ce qui intéresse le fût, donc le contenant, c'est parce que c'est du bois, donc du bois qui va donner un échange. Si vous mettez ça dans du plastique, j'allais dire pas n'importe lequel, et qu'en même temps vous mettez des copeaux de bois, l'affaire s'est faite.
D'accord.
Il n'y a pas besoin d'acheter un tonneau qui va vous coûter 500 euros avant d'avoir mis quelque chose dedans. Donc, ça se fait énormément dans des vins qui sont des vins... alors, normalement, je pense que c'est toujours interdit en France, bien que j'ai vu des sacs de copeaux. Et c'était écrit en anglais, mais ils se vantaient de vendre des copeaux venant de forêts françaises. Je trouvais ça extraordinaire, parce que je l'ai vu en France. Et je sais que, ça se fait en Californie ou autre. Mais c'est pas pour ça, d'ailleurs. Enfin, ça m'embête, parce que c'est pas dans la tradition. Est-ce que... Le palais suffisamment fin pour savoir si c'est une... Mais enfin bon, ça, plus ça me regarde pour...
Bon, on va écouter une chanson, on va écouter Pedro Brage qui nous chante une chanson qui s'intitule Nadura, la nature, ce qui est le propre par exemple aussi des cépages du vin naturel, on parle de vin naturel d'ailleurs. Et puis on se retrouve tout de suite après avec Jean-Pierre, on va continuer à parler du vin, et vous verrez que le vin, c'est... il est présent partout, puisqu'il y a le vin des morts par exemple, dans l'Antiquité, vous verrez que, voilà, puis Jean-Pierre va nous raconter plein d'histoires sur le vin, j'en suis persuadé, voilà. À tout de suite.
fatta di scoglie e di verdura, sia bellezza di una dura, tutti li porteremo un cuore. Tu Corsica mai un muore. C'è più nimo, ci ferma solo una rovina. Cruel è tutto su fuoco che brucia sa mattia fiorina. Pare ci sono quelli che scappano da un monte messa a marina. Fatta di scoglie e di verdura, sia bellezza di una dura, tutti li porteremo un cuore. Corsica mai un muore. Fatta di scoglie di verdura, sia bellezza di una dura, tutti li porteremo un cuore.
Eh bien, on va repartir sur le vin.
Naturellement vôtre. Quand vous voulez en podcast, sur bleurcfm.com.
Et avec Jean-Pierre, vous parle du vin aujourd'hui, de ses origines, de ses couleurs, de ses cépages, de ses capacités à nous rendre heureux ou pas, à consommer bien évidemment avec modération. Et on va parler bien sûr du millésime, Jean-Pierre, maintenant.
Bah oui, alors tout le monde sait il y a des années du siècle, plusieurs fois par siècle.
Oui. Hein,
ce qui peut être une nouvelle absolument... sympathique, hein. Si c'est pas simplement un vil prétexte pour vendre de vin encore
peut-être,
plus cher.
Peut-être.
On sait que nos vins, hélas, partent, voyagent beaucoup, hein, vont en Chine,
oui.
Par exemple,
oui.
Vont
oui.
Dans des endroits où ils sont pas forcément. Ça peut énerver de voir déboucher une immense bouteille qu'on ne verra jamais nous, et la déboucher pour manger avec mettre du coca dedans pour
oui, manger avec un burger.
Voilà, exactement. Bien.
Bon. En tout cas, le alors, ce qu'on peut dire, Jean-Pierre, c'est que le millésime, c'est l'année de récolte des raisins ou pas?
Oui, tout à fait.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire un vin de 47 a été récolté en 47. Comme un alcool de 47, d'ailleurs, c'est la même chose. Alors, justement, je dis 47, parce qu'on se réfère toujours à cette année-là, maintenant, il y a eu d'autres années du siècle. Il y a eu 49, d'ailleurs, aussi, une belle année pour les hommes et pour le vin. 47, c'est resté pendant très longtemps une année, tout le monde devait avoir du 47 dans sa cave. Quoi. Le vin de 47, qu'on a cité en exemple, c'est le Château Yquem. Alors, millésime, oui, parce que monsieur de l'Ursalurs ne fait pas ses cuvées tous les ans. S'il s'aperçoit que la récolte est pas bonne pour des raisons diverses et variées, il y aura pas de vin. Cette année, il y a pas de vin. Si l'année est mauvaise, il y a pas de vin. Je ne parle pas pour cette année, hein,
mais oui.
Ouais, si c'est mauvais. Et ça m'est arrivé de faire un film une histoire naturelle qu'on avait appelé In Vino Veritas. Voilà. Et là, on avait rencontré un monsieur, je peux le citer, puisqu'il y avait son nom sur les cartons, comme on dit, monsieur Audouze, qui était un sacré phénomène, monsieur Audouze, parce que, et j'espère qu'il est toujours là pour nous écouter, ce monsieur était collectionneur de vin. Alors ça peut paraître bizarre, tout le monde collectionne le vin plus ou moins, tout le monde rêve d'avoir une cave, etc.
Ouais,
c'est une... Et lui, il avait des vins faramineux, il avait les moyens de se donner les moyens d'avoir une cave comme celle-là. Juste pour situer, vous savez, on pose toujours des questions, n'est-ce pas, un peu bateau, hein, des fois aux gens qu'on interviewe, et moi je m'en étais pas privé, donc pour votre collection, de quoi rêvez-vous, monsieur Audouze? Et monsieur Audouze, sa collection, ça consistait à avoir des vins très vieux et à les goûter.
Donc ça, c'est intéressant.
Un type bien. Il disait, moi, je suis un collectionneur spécial. À chaque fois que je jouis de ma collection, je la détruis. Donc, de quoi rêvez-vous pour votre collection, monsieur Audouze? Eh bien, de goûter un Yquem 47. D'accord, bon, ok. Mais il ajoute immédiatement dans la foulée, 1847.
Ah oui, c'est plus la même.
Parce que je les ai tous goûtés, les autres.
Magnifique.
Donc ça vous situe un petit peu la qualité du propos qu'il peut avoir. Et c'est ce monsieur qui faisait un truc extrêmement sympa, qui était très onéreux, hein, donc c'est pas, mais il faisait ce qu'il appelait des wine dinners, c'est-à-dire en compagnie des plus grands chefs. Il avait il y avait une carte des vins où il y avait une dizaine de crus que personne pouvait se payer, mais comme il y en avait 10, ça faisait tomber les prix, puisqu'il y avait une dizaine de personnes. On peut tirer 7, 8, 9, 10 verres de quoi goûter un vin, hein, dans le. Et donc, ces dîners étaient extraordinaires. Et il allait commencer à déboucher la veille.
Donc, oui.
Et ensuite, lui seul, peut-être au monde, pouvait affirmer ce qu'il affirmait, c'est-à-dire que jamais un vin n'est passé. Il y a toujours un moment dans les 24 heures qui vont suivre le moment où il débouche, sauf s'il est complètement pourri, s'il est bouchonné, ça on peut rien y faire. Mais même un vin qui va sentir l'hydrogène sulfureux, un truc comme ça, ou sulfuré, va à un moment donné ce qu'il a à donner. Mais ça peut être étagé sur 24. Et ça, aucun sommelier en exercice, en tout cas dans un restaurant, n'a le loisir de le faire. Parce qu'il va déboucher peut-être une heure avant de servir.
Oui, il va carafer.
Ah oui, bien sûr. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que les grands crus sont aussi chers. Ouais. Parce qu'il n'est pas question d'en servir un qui ne soit pas bon. Donc des fois, on débouche trois bouteilles on va faire du vinaigre avec.
Il y a un truc assez étonnant dans la millésime, Jean-Pierre. Je regardais certaines années. Alors c'est curieux, c'est 1935. Et puis on arrive à 1975, 1985, 2005, 2015. Et puis après, on bascule sur d'autres années. 2010, 2000, grande année par exemple. 1980, il y a des chiffres ronds. Ou alors, par exemple, qui se termine en 9, 1949, vous le citiez. Après, il faut arriver à 1959. Très, très bonne année, 1959. 1989, 2009. Et il paraît d'ailleurs que cette année est une très, très, très belle année.
Ça s'arrose.
Non, on va le gêner. Alors bon, les millésimes, c'est aussi... les prix.
Bien sûr. Non, mais c'est bon. Là, on arrive à des prix faramineux. Alors, ce monsieur Oudouz, là, va de foire de salle des ventes en salle des ventes. De toute façon, même, il est contacté, puisqu'il n'y a pas 36 clients comme ça de par le monde. Et il donne la chance à des vins. Moi, j'ai bu une fois chez lui un Morgon de 47.
Waouh.
Un Beaujolais de 47, ça n'existe pas. On lui a jamais laissé sa chance. Bah lui, il s'est amusé à en acheter, ce qu'il quelque part il en a trouvé, et c'était effectivement un grand vin.
Et puis lui, c'est un amateur. Mais vous disiez tout à l'heure qu'il y a des gens qui investissent dans le vin parce que c'est une valeur sûre, quoi.
Alors c'est lui qui avait des bouteilles aussi extrêmement anciennes, qui je crois d'avant la Révolution, qu'il avait retrouvées venant d'Afrique du Sud. Peut-être que justement il y avait des gens qui étaient partis sachant faire le vin. C'est très certainement des gens partant d'Alsace d'ailleurs. C'est la même histoire que le champagne. Pareil. Si vous regardez les noms des gens qui font du champagne, ils ont tous des noms à consonance germanique pratiquement, parce que il y avait eu des problèmes entre les parpaillots et les histoires des dîmes de Nantes, etc. Donc ils sont partis ailleurs avec leur savoir-faire. Et puis à Chypre, alors je sais pas pourquoi, parce que c'est comme ça.
Marquez, c'est comme si le foie gras que vous trouvez à Madagascar, c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont arrivés de Dordogne, qui se sont installés là-bas.
Bien sûr, oui, tout à fait. Il y a des vins de toutes les couleurs, on l'a dit, il y en a du jaune, du gris.
Il y en a un, par contre, qui me fait pas de plaisir du tout, c'est ce vin bleu turquoise. Parce qu'il y a un grand débat là-dessus, qui se sont
vendus en Espagne. Mais je croyais qu'on parlait du vin, là.
Non, mais je tiens à préciser. Apparemment, il y a un grand débat, il y a des enquêtes. On sait pas trop, il sait pas trop, en tout cas, c'est pas naturel, d'après ce que disent les spécialistes. Bon.
Mais si on l'appelait autrement, moi j'ai le souvenir de Blue Lagoon ou Harris Bar, ça allait.
Et puis ça dépend des heures à lesquelles on le boit.
C'est surtout. Justement,
parce qu'on est pris par le temps.
Il y a deux mots que j'adore, moi, c'est là. Alors, il y en a un qui est amusant, c'est le vin de soif.
Oui.
Puis il y en a un qui est beau comme tout, c'est le vin d'amitié.
Ah, le vin d'amitié est le plus bon, le meilleur à boire, avec modération tout de même.
Alors, justement, on arrive, pourquoi pas, à deux ou trois aphorismes qui se défendent. Attention, le vin est innocent, c'est l'ivrogne qui est coupable.
Joli.
Alors, des ivrognes, des sacs à vin, des boissons soif, des suplalis, il y a tous les noms. Ce sont des gens qui se pochent.
Hommes de vin, de rien.
Oui, qui se pochetronnent avec du gibelin, du pinard, du picrate, du rouquin. Un petit coup de jaja.
Ah, oh, c'est joli, le jaja.
Le jaja, savez-vous d'où ça vient?
Non.
C'est notre bon Henri IV qui, après, pendant et avant sa poule au pot, adorait le jaja, c'est le vin de Janière.
Ah,
Janière, c'est un petit bled qui est pas loin de la Flèche, là-bas. C'est un vin blanc qui est qui parfois peut être foxé, d'ailleurs. Enfin, le japonais. Platon disait « Le vin est le lait des vieillards ».
Joli. On va conclure là-dessus, mon bon Jean-Pierre.
Ah bon ?
Oui, c'est rapide.
Vous n'avez plus soif ?
Non, si, mais enfin bon, à d'autres heures. Je voulais simplement vous raconter qu'il y a une histoire d'un vin, d'un raisin qui s'appelle le raisin framboise. En Corse, il s'appelle l'Ouadji, Mija, qui a été planté. Les gens faisaient du vin avec ça. Il a été interdit. Et j'ai une anecdote chez moi au village, où on était venu voir mon père en disant « Monsieur, mais qu'est-ce que c'est ?» Il avait une treille qui était là depuis des lustres. Et il sait que c'était interdit à la consommation. Mon père a dit « Écoutez, nous, on fait simplement du raisiné. » Bon, Jean-Pierre, voilà. À la semaine prochaine, on parlera la semaine prochaine de choses qui sont pas forcément...
C'est vous qui avez voulu.
Hein. Non, qui sont pas attrayantes, mais en tout cas, on fait avec. Hein.
On va commencer en catastrophe.
Allez,
démarrer en catastrophe.
On va démarrer en catastrophe. Passez une bonne semaine. You.